Bienvenue sur le podcast Une Session Presque Parfaite, le podcast qui rentre dans les coulisses de la transmission d'entreprise. L'objectif, aller à la rencontre de dirigeants qui ont vendu ou qui ont tenté de vendre leur entreprise, mais également échanger avec des avocats d'affaires, des investisseurs, des conseillers en session d'entreprise pour obtenir toutes les clés de réussite d'une telle opération. Je suis Eliott Samoun et je suis conseiller en session et financement d'entreprise.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Renaud Besançon, associé chez Zeta Private Equity, une société d'investissement familial et entrepreneurial, et qui va nous parler donc du MBI, donc Management Buy-in, et de l'opération aussi qu'il a réalisée avec le groupe Exeol. Bonjour Renaud.
Bonjour Eliott, merci de me recevoir.
Merci à toi. Donc on va parler d'un sujet qui est passionnant, celui du MBI, puisque tu as même, en tant qu'entrepreneur, tu as fait un MBI avec le groupe Exeol. On va évidemment revenir sur cette opération et sur les enjeux du MBI. Avant cela, est-ce que tu peux te présenter à nous et nous expliquer un peu ton parcours, s'il te plaît?
Avec plaisir. Donc effectivement, je suis associé de Zeta Private Equity. On fait du LBO, small, mid-cap, des tickets de 10 millions à 40 millions majoritaires, principalement sur des LBO primaires. La particularité, c'est qu'on investit notre argent, on n'a pas de levée de fonds externes, donc pas de limited partners. On investit l'argent des quatre associés, dont notre président qui s'appelle Claude Darmon. Donc ça, c'est une première différence avec les nombreux fonds d'investissement présents à Paris. Deuxième sujet, sur les quatre associés, on est trois associés, trois anciens dirigeants de sociétés opérationnelles. Donc moi, la société Exeol dont je vais parler dans notre dialogue. Et puis, dernier point, c'est que ayant un bilan et investissant notre argent, on n'a pas d'horizon de temps. C'est vrai pour la durée de détention des participations, c'est également vrai pour les build-up, puisqu'on peut aisément réinvestir des sommes en années 3, 4, 5, 6, qui est beaucoup plus compliqué pour nos amis les fonds qui, eux, ont des périodes d'investissement limitées à 5 ans.
Tout à fait. Et donc, vous êtes un peu comme un fonds evergreen, on va dire. Donc, vous investissez dans la durée et vous accompagnez vraiment les entrepreneurs, surtout les projets de croissance externe par la suite, si jamais ou si vous décidez avec une participation de la développer, de faire la croissance externe, c'est ça?
Tout à fait. On fait énormément de build-up. Je dirais peut-être même encore plus que les fonds institutionnels traditionnels, puisque avec notre bilan, en fait, on peut encore une fois réinjecter des fonds en année 3, 4, 5, 6 et donc constituer des groupes de grosse taille.
Sur quel secteur vous investissez principalement?
Alors en fait, on aime bien tout ce qui est B2B, que ce soit les services aux entreprises, la distribution de B2B, l'industrie légère. On a aussi investi dans les médias, on a une compagnie d'aviation, donc après c'est assez divers, varié, mais on a fait aussi du consumer, on a fait du prêt-à-porter, je crois qu'on est un des fonds qui a fait le plus de prêt-à-porter, mais dans des sociétés qui ont une empreinte retail assez limitée.
Tout à fait.
C'est-à-dire des boîtes qui font des grossistes, internet, mais peu de magasins.
D'accord.
Pour des raisons évidentes.
Évidemment. Merci beaucoup, donc Renaud. Alors, on va parler donc de MBI, Management Buy-in. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, s'il te plaît, et la différence avec les autres opérations de LBO, notamment le MBO, donc qui est le Management Buy-out. Voilà, je te laisse évidemment l'expliquer avec tes mots. Voilà, s'il te plaît, Renaud. Merci.
Bon, alors le management buy-in, c'est très simple. Buy-in, c'est-à-dire le manager, en fait le dirigeant d'entreprise est à l'extérieur, par opposition au MBO, LMBO, dans lequel en fait le manager, le dirigeant d'entreprise est déjà dans l'équipe dirigeante. Ça peut être par exemple le directeur général, le président part en retraite et les fonds investissent avec le directeur général qui monte et qui devient président. Ça, c'est le MBO. Le MBI, ce que j'ai fait donc sur Exeol, j'étais à l'extérieur, je ne connaissais pas la société, je rassemble des fonds pour racheter l'entreprise et je deviens président au closing de l'entreprise.
Évidemment, on va revenir juste après sur l'opération avec Exeol. Quels sont les avantages, donc, Renaud, d'un MBI? Voilà, pourquoi opter pour un MBI plutôt que pour une autre forme de LBO?
Alors en fait, le MBI est une solution qui est un peu indispensable quand l'entreprise doit être vendue, par exemple, parce que le patron a un certain âge ou a des problèmes de santé, ou même souhaite faire autre chose, et qu'il n'a pas anticipé sa succession managériale, c'est-à-dire qu'il n'a pas un directeur général capable de devenir numéro un. Hein, sachant que tous les directeurs généraux ne sont pas aptes à être numéro un. Donc, où il a anticipé, il a fait venir quelqu'un et donc il présente une société à la vente qui a déjà une solution managériale en place. Ou alors, il vend sa société sans solution managériale et l'investisseur doit venir avec un dirigeant de l'extérieur donc pour faire ce fameux MBI.
Et quelles sont les raisons que te donnent les dirigeants qui souhaitent mettre en place un MBI plutôt que vendre à un industriel, un concurrent, qui serait peut-être par moment la solution la plus simple ?
Alors déjà, il y a des gens qui ne veulent pas vendre à un concurrent parce que leur société risque d'être intégrée, disloquée. Les équipes de management qui ont participé à créer la valeur et donc qui finalement ont quand même participé à créer de la valeur pour le dirigeant cédant, quand même beaucoup de dirigeants sont soucieux du devenir de ces équipes. Hein. Donc, rester indépendant et plutôt devenir au contraire une plateforme de consolidation des rachetés d'autres entreprises, c'est quand même renvoyer l'ascenseur à ces équipes qui ont participé à développer l'entreprise. Donc ça, c'est une première raison. Puis, deuxième raison, je dirais, il y a des dirigeants qui n'ont pas ce souci de protéger leur équipe, qui vont faire ce qu'on appelle un dual track, dans lequel il y aura effectivement des fonds d'investissement, donc avec des candidats managers buy-in, et puis des industriels. Et puis à la fin, le fonds met un prix qui est supérieur et emporte la mise. Donc c'est à peu près les deux cas de figure usuels.
Tout à fait. C'est ce que l'on peut voir aussi dans le métier du conseil en cession d'entreprise. Donc là, on a parlé effectivement des avantages pour le dirigeant. Pour l'investisseur, toi qui es aussi cette casquette investisseur, quels sont les avantages selon toi à réaliser une opération de MBI ?
Alors, il n'y a pas en fait tellement d'avantages. En fait, c'est plutôt un risque. Le MBI, quand on le met en place, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc c'est la seule solution pour reprendre une entreprise et avoir un dirigeant qui on l'estime et on croise les doigts pour que ce soit le cas, fait l'affaire. Mais en vérité, pour l'investisseur, c'est plus un risque qu'autre chose. Puisque quand on embauche quelqu'un, on le sait bien quand on devient un petit peu plus âgé et qu'on a un peu d'expérience, recruter quelqu'un, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire dans notre métier d'investisseur. C'est aussi d'ailleurs dans le métier de dirigeant une des choses les plus difficiles. Et il y a un taux d'échec. Donc, première chose, on peut embaucher quelqu'un en MBI, un candidat, un dirigeant MBI qui ne va pas faire l'affaire, qui sait très bien se vendre, mais qui finalement n'est pas très efficace quand il est patron. Et puis, le deuxième risque, c'est qu'on peut avoir quelqu'un qui est très bon, mais avec lequel il n'y a pas un fit avec l'équipe en place, ce qu'on appelle un rejet de greffe.
Tout à fait.
Et là, où le dirigeant finalement doit partir parce qu'il met le bazar, ou alors on va avoir des cadres clés qu'on aurait aimé garder qui vont partir, et donc ça pénalise l'entreprise, ça pénalise les investisseurs. C'est pour ça que le MBI, en fait, est beaucoup plus risqué qu'un MBO, et que de mon point de vue, en tant qu'investisseur, si c'est plus risqué, le prix doit être ajusté. On pourrait parler d'une décote de MBI. C'est un autre sujet, mais on le voit rarement dans le marché. En fait, il y a beaucoup de nous trouvons qu'il y a beaucoup de d'acheteurs qui ne décotent pas, alors que on pourrait tout à fait penser qu'une société qui vient sans management vaut moins cher qu'une société dans laquelle il y a un management. Et encore une fois, en mettant en place un MBI, on a un risque que finalement, au bout d'un an ou deux ans, le patron, on doit changer le patron, ce qui derrière ralentit notre plan de développement et donc ralentit pénalise nos retours. Donc c'est un vrai risque, et comme on sait dans la finance, il y a quand même un lien entre le risque et le rendement.
Tout à fait.
Donc s'il y a un risque particulier, on devrait ajuster un petit peu le prix.
C'est ce qui justifie d'ailleurs, selon moi aussi, qu'il y a très peu de fonds qui se positionnent sur ce type d'opération. Voilà, on voit souvent des fonds MBO classiques, des fonds MBO, mais c'est rare de voir aussi des fonds qui se positionnent sur ce type d'opération, parce que comme tu viens de le dire, Renaud, donc il y a beaucoup de risques et surtout effectivement pour l'investisseur, d'une part une peur que ce soit mal greffé, une peur d'une culture trop différente, du dirigeant qui n'est pas aussi efficace. Donc c'est la raison aussi pour laquelle tu as souhaité faire ce type d'opération, parce que voilà, tu ressentais le besoin.
Alors pourquoi j'ai fait mon MBI, c'est ça?
Oui, c'est ça. Voilà pourquoi. Ouais, exactement.
Alors moi j'ai fait un MBI. Je venais du monde de la finance, donc auditeur chez Arthur Andersen, M&A chez Oak Point. J'ai ouvert le bureau à Paris, puis j'ai fait du private equity. Mais j'avais depuis que j'étais gamin un projet entrepreneurial de reprendre un groupe industriel. Donc vraiment mon dada c'était les usines. Et après avoir fait un bout de chemin dans la finance, je me suis dit que ça serait très complémentaire avec ce que j'avais appris dans la finance, de racheter une entreprise et devenir patron opérationnel. C'était aussi une façon de me tester. Est-ce que j'étais capable, est-ce que j'avais des capacités managériales, et puis c'était aussi un risque entrepreneurial qui était à mon avis tout à fait passionnant. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai sauté le pas et j'ai quitté le monde assez, très confortable et plutôt rémunérateur de la finance pour racheter une entreprise industrielle en province.
Alors comment on est amené à faire un MBI dans le sens où tu quittes le monde de la finance et est-ce que tu es contacté ou c'est toi qui va, entre guillemets, chasser la cible? Ouais, comment t'as pu identifier Exéol? Est-ce qu'on est venu te chercher? Surtout que je sais pas à quel moment. Ouais, tu l'as fait en 2004, il me semble, l'opération. Donc à l'époque aussi, il y avait peut-être beaucoup moins d'intermédiaires de conseils aussi en fusion et acquisition d'entreprises. Donc un marché beaucoup peut-être plus opaque qu'il ne l'est actuellement. Donc voilà, comment t'as pu dénicher cette opportunité?
Alors en fait, j'étais je faisais du M&A, j'avais ouvert le bureau de Oak Point qui est devenu Canaccord par la suite et qui était qui faisait du M&A très très focalisé sur les fonds d'investissement. Donc on allait débusquer un peu partout des opérations primaires pour présenter ça à des fonds d'investissement institutionnels. Et puis de temps en temps, il y a des petites sociétés qui étaient trop petites pour qu'on prenne un mandat de vente, et c'était dans ce genre de société un peu petite que je regardais des dossiers pour reprendre l'entreprise à mon compte. Et j'ai fait une conférence sur les LBO une fois en tant qu'intervenant, ex-fonds d'investissement et spécialiste M&A. Et j'ai un intervenant qui est venu me voir, qui était un fonds minoritaire qui avait beaucoup de participation. J'ai regardé son portefeuille, je l'ai rappelé. Et puis après, je me suis intéressé à une de ces sociétés de portefeuille, j'ai rencontré le dirigeant, et puis de fil en aiguille, on a réussi à monter l'opération.
Alors, qu'est-ce qui t'a plu en fait chez Exéol? Parce que on va parler de critères pour une bonne cible, entre guillemets, de MBI. Alors, on sait qu'il y a évidemment des critères qui sont subjectifs, qui sont propres à tes goûts pour certains secteurs, mais il y a aussi des critères qui sont plutôt, on va dire, universels, des critères financiers. Donc, quels sont les critères que tu as regardés en priorité et les critères qui sont essentiels pour n'importe quel dirigeant qui souhaiterait faire ce type d'opération?
Alors, je dirais que là, il faut prendre une grille d'analyse classique quand on regarde un investissement. Donc, les forces et faiblesses, enfin, qu'on fasse une analyse SWOT, par exemple, Strengths, Weakness, Opportunity, Threats, ou d'autres schémas d'analyse. Donc, j'ai fait cette analyse. Ce qui m'a plu dans cette société, là, à l'époque, la société devait faire 36 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'était de la conception, formulation et fabrication de produits d'entretien principalement liquides. Une partie automobile qui faisait tous les fluides techniques au sein du véhicule, donc liquide de frein, liquide de refroidissement, huile moteur et lave-glace. Une partie d'hygiène en collectivité, donc principalement des produits détergents désinfectants. Et puis après, j'ai racheté une activité qui faisait la désinfection en milieu hospitalier, dentaire et vétérinaire. Bon, et donc l'idée, c'est que c'était récurrent. En fait, on avait des clients qui recommandaient. Donc en fait, on pouvait envisager une croissance sur une base récurrente. Donc ça, c'était bien. Le patron qui avait 74 ans à l'époque et des quelques problèmes de santé, ils ont vendu à un prix qui était un petit peu décoté parce que c'était un MBI. Donc ça, c'était un deuxième attrait. Troisième attrait, c'est que j'avais pu, très, très en amont, être présenté à l'équipe de direction et finalement co-construire avec eux une stratégie de développement. Et quand j'ai cherché à faire un tour de table avec des investisseurs, Donc, en particulier des fonds institutionnels, des fonds de private equity. On leur a fait une management presentation classique dans lequel j'étais déjà dirigeant. Alors que j'avais pas encore investi, le closing n'avait pas eu lieu, mais je représentais la société, j'avais déjà beaucoup travaillé la société, et on présentait un plan de développement qu'on avait co-construit avec l'équipe, et j'étais déjà positionné comme le dirigeant de l'équipe.
D'accord.
Avant même l'opération. Donc ça, cette approche a permis de crédibiliser énormément ma position dans l'entreprise, mais surtout aussi à finalement déjà convaincre les gens qui travaillent dans l'entreprise, l'équipe de direction, qu'ils avaient envie de travailler avec moi, convaincre aussi que j'étais à leur écoute. J'arrivais pas avec un plan un Parisien qui vient en disant je sais tout sur tout. Donc j'ai beaucoup été à l'écoute avec une approche très humble en disant je connais pas votre boîte, je connais pas votre secteur, je sais pas ce que vous faites, donc expliquez-moi et qu'est-ce qui va pas, quelles sont vos idées pour progresser, pour développer, et voilà moi quelles sont mes idées. On a co-construit quelque chose ensemble. Et qui derrière tenait la route quand on a fait une présentation, on dirait différents fonds d'investissement que j'ai été chercher, j'ai sollicité puisque j'avais en fait négocié le prix avec le patron. On avait un accord sur la chose et sur le prix. Et derrière, j'ai été lever des fonds auprès de fonds d'investissement à la place.
Alors, on va parler évidemment de comment tu as pu sécuriser ce financement, puisque c'est essentiel dans une opération de LBO. Mais avant ça, je voulais revenir justement sur l'opération, c'est-à-dire le contexte. Donc le dirigeant, 74 ans, qui a des problèmes de santé, et dans tous les cas, de par son âge, effectivement, je pense qu'il avait aussi tout intérêt à prendre du temps et du repos pour lui. Donc est-ce qu'il y avait aussi un management qui était efficace, qui était mis en place? Et dans ce cas-là, on aurait pu parler de BIMBO, donc Buy-in, Management, Buy-out, donc un mix entre un MBI et un MBO, voilà, est-ce que c'était aussi envisageable?
En fait, ce qui s'est passé au moment où je suis arrivé, j'avais une équipe en place. Ouais. Et donc, j'ai construit un plan avec eux, un plan de développement. Après, au fur et à mesure que les mois ont passé, j'ai vu qui était performant et devait rester et qui était moins performant et devait partir. Donc, à un moment donné, un autre, quand on est dirigeant, on se construit son équipe au fur et à mesure. Et donc, c'est vrai qu'après quelques mois, il y a des gens qui sont partis et d'autres que j'ai ramenés pour constituer, je dirais, entre guillemets, mon équipe.
D'accord, très bien. Donc, c'est toi qui a staffé. C'est clair parce qu'effectivement, le contexte est essentiel aussi dans ce type d'opération. Alors, tu as parlé donc de levée de fonds. Tu es parti voir donc pour sécuriser le financement des fonds de MBI, donc des fonds de private equity qui investissent essentiellement dans des opérations de MBI. On sait que le financement, c'est essentiel pour une opération donc, de LBO. Donc, il y a une part de capital, une grosse part souvent de dette. Voilà, comment tu t'es débrouillé pour avoir ce financement en sachant que, j'imagine, compte tenu du risque, les banques devaient être peut-être frileuses et les fonds, il y en a peut-être beaucoup moins qui acceptent de faire un MBI. Voilà, comment tu as fait tout ce process?
Alors, effectivement, c'est... Bonne question, c'était pas évident. Je rappelle, j'avais 33 ans.
Ah ouais.
J'étais financier. je dirigeais de société. Et en fait, quand un fonds fait un MBI, traditionnellement, il va chercher un patron expérimenté, de façon privilégiée, un patron qui vient du secteur, donc qui connaît le secteur, parce que de toute façon, il connaîtrait pas l'entreprise et l'équipe de direction, il a déjà ce risque-là. Et donc, pour dérisquer, les fonds. Je dirais le peu de fonds qui acceptent d'investir dans un schéma MBI vont chercher en priorité des dirigeants de concurrents ou des clients, des fournisseurs, des gens qui connaissent très bien le secteur. Donc moi, non seulement je ne connaissais pas le secteur, mais je n'avais jamais dirigé aucune société. Donc je cumulais les inconvénients et les risques. Et puis en plus, j'étais très jeune parce que j'avais 33 ans, donc très peu expérimenté. Alors, pour contrer, j'étais conscient de ces inconvénients, enfin, de ces avantages. Et donc, j'ai essayé de mettre en place un espèce d'écosystème, en tout cas un système, pour rassurer tout le monde, à la fois des investisseurs pour avoir les fonds propres, les banques pour qu'ils mettent effectivement le levier sur le LBO, et puis également le patron auquel j'ai demandé de réinvestir, et puis les quatre dirigeants, auquel j'ai aussi proposé de participer au capital. Donc, le système que j'ai mis en place, la première chose, c'est que j'ai pas hésité à investir massivement, en dépit de moyens très limités à 33 ans ayant trois enfants en bas âge. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 1 million d'euros que j'avais pas. Donc, j'ai mis 100 000 euros qui étaient mes économies personnelles à l'époque. Je venais tout juste de rembourser mon MBA. Et après, j'ai emprunté une grosse partie des 900 000 euros Ce qui veut dire que si l'opération ne marchait pas, je me retrouvais sans salaire, en ayant perdu 100 000 euros et en ayant 900 000 euros de dettes à rembourser. Donc, c'est un gros risque. Usuellement, vous le savez, les fonds demandent en général au moins un an de salaire. Donc là, ça aurait été 200 000 euros. Moi, j'ai mis 5 ans de salaire à 33 ans. Et donc ça, ça a donné un signal au fonds d'investissement que je faisais banco sur ce dossier, que j'y croyais, et que j'allais me battre bec et ongle pour faire de la plus-value. Ça, c'était le premier élément, envoyer un signal que j'y crois et je suis cohérent. Si je propose aux gens d'investir beaucoup d'argent, il faut moi aussi que je mette beaucoup d'argent. Donc ça, ça a été le premier signal fort. Deuxième chose que j'ai mis en place, c'est que le dirigeant, pour gérer la partie transition managériale, a fait un accompagnement de 6 mois avec moi. 6 mois, c'est suffisant, hein, bon. Et puis, il est resté investisseur minoritaire, quand même assez significatif. Et puis, il était au board, c'est-à-dire qu'il suivait l'entreprise quand on faisait les réunions mensuelles de suivi du portefeuille avec le fonds. Il était là. Ce qui veut dire finalement, et ce qui était, je l'avais dit de façon implicite aux dirigeants du fonds, finalement, au bout de 6 mois, si tu vois que je ne fais pas l'affaire, je suis complètement à côté de mes pompes, tu me sors du dispositif, je reste actionnaire et tu mets un nouveau dirigeant en place. Et pendant que tu cherches, tu fais une chasse de tête, bah, l'ancien dirigeant reprend le flambeau, sachant qu'il n'a jamais été très loin. Il a fait la transition managériale avec moi, il suit l'entreprise tous les mois, il a encore une légitimité, ça fait 20 ans qu'il est dans la boîte. Donc, en vérité, le risque managérial, si je ne délivrais pas ou s'il y avait un rejet de greffe vis-à-vis de l'équipe, était très limité, puisque le patron pouvait reprendre le manche. Donc, c'est comme ça que j'ai limité en disant, écoutez les gars, si je ne fais pas l'affaire, vous me remplacez, il n'y a pas de problème, je lève la main si on ne s'entend pas, si ça ne marche pas bien, je ne veux pas que l'opération échoue, je me retirerai, le patron arrive, vous faites une chasse de tête. Donc ça, je dérisque la partie managériale, transition managériale. Et sur la partie actionnariale, bon, moi j'ai investi massivement ce que j'ai dit, le patron est réinvesti, ce qui voulait dire aussi, d'une certaine façon, qu'il adoubait mon projet, le projet qu'on avait co-construit avec cette équipe de direction. Et puis, j'ai aussi proposé à l'ensemble du comité de direction, qui n'était pas actionnaire, je leur ai proposé d'investir en disant, on a co-construit un plan ensemble, c'est tout à fait légitime que, si ça se passe bien, on travaille bien tous ensemble, vous touchiez une partie des fruits de la plus-value. Donc, ce qui a été évidemment très apprécié, puisque pendant des années, ils n'étaient pas actionnaires, et moi, je leur ai proposé en arrivant d'être actionnaire. Donc, tout ça a contribué à sécuriser le dispositif. L'autre chose aussi, c'est que en ayant très tôt mis un pied dans l'entreprise, en faisant ces ateliers pour écouter les dirigeants, enfin l'équipe de direction en place, pour bien comprendre les plus et les moins de la boîte, leurs suggestions d'amélioration, finalement j'avais une compréhension très très fine de l'entreprise, je dirais qui est beaucoup plus poussée que le candidat MBI qui n'a pas eu cette opportunité de rentrer dans l'entreprise et qui se bat sur les due diligence uniquement extérieures, mais qui a eu peu de temps à passer avec les managers. Moi, j'avais passé énormément de temps avec les managers en groupe et en one-to-one, c'est-à-dire qu'ils pouvaient aussi me dire des choses un peu off, comme par exemple les problèmes de la boîte, comme par exemple les choses que l'ancien dirigeant faisait bien et faisait moins bien. Et ça, quand on a fait la management presentation, c'est vrai que à la fois les équiteurs, les fonds d'investissement et les banques ont... on a vu que c'était quasiment une management presentation d'un patron qui était dans la boîte, tellement j'avais bossé sur le dossier.
T'as rapidement eu la conviction en fait, que tu pouvais mettre en place des leviers significatifs pour développer tout le potentiel, parce que j'imagine si t'as eu cette forte conviction, c'est que bon, le dossier, il t'a plu, voilà, forcément il y avait des points qui t'ont amené à faire ce dossier-là, mais j'imagine qu'il y avait aussi pas mal de points sur lesquels tu t'es dit, bah, voilà, moi je peux améliorer ça, je vais peut-être digitaliser peut-être certains process. Enfin, est-ce que rapidement, tu as eu cette conviction-là que tu pouvais vraiment créer de la valeur indépendamment du staff avec qui tu t'es entouré?
Alors, en fait, je n'ai pas raisonné comme ça. Avant de créer de la valeur, ma priorité, c'était déjà de préserver la valeur. Mon obsession, ça a été de sécuriser l'existant. Et en particulier de rassurer toutes les parties prenantes dans l'entreprise, donc évidemment tous les employés. Et donc, il y avait 4 usines à l'époque, donc j'ai fait évidemment le tour des 4 usines, j'ai fait des séances de présentation, j'ai passé du temps également dans les usines. Je me suis fait un petit trombinoscope où j'avais j'ai eu jusqu'à 330 employés, donc je connaissais le, et ça me paraît normal, le nom et le prénom de tous les employés. Et donc, je tournais régulièrement, j'étais très proche du terrain. Déjà, pour les rassurer en disant, je suis pas un financier parisien qui va rester dans son bureau et qui va piloter ça. Voilà. Donc, j'étais très, très sur le terrain, à l'écoute aussi des remontées, parce que quand on est sur le terrain, les gens ont tout un tas d'idées et ça remonte et ça fait progresser l'entreprise. Donc, après, j'étais voir les clients. Donc, les gros clients, on a été les voir un par un avec l'ancien dirigeant pour leur dire finalement, bah, le dirigeant reste là pendant un certain temps. Il y a le passage de relais managérial. Il croit au projet, il croit au repreneur puisqu'il a réinvesti à titre personnel. Il est toujours actionnaire. Et puis, il reste au conseil d'administration. Il a des réunions de suivi tous les mois. Donc, en fait, on a dit, bon, il est plus là, mais il est quand même là. Mais bon, c'est vrai que le nouveau dirigeant, c'est clair, il peut y avoir qu'un patron dans une boîte, ça sera un Renault. Et donc, on a été voir ensemble tous les clients. Ça s'est très bien passé parce qu'ils ont vu qu'il y avait en plus une certaine complicité avec l'ancien dirigeant. On a rassuré les clients, les fournisseurs principaux. Quand on a rassuré les clients, les fournisseurs, les banques, on les avait vus dans les management presentations qu'on avait fait avec elles, tout le monde était rassuré et on avait préservé la valeur. L'objectif, c'était que des éléments clés de l'équipe de direction ne partent pas. Donc ça, on avait pris le temps de se connaître, de travailler ensemble. Et puis, j'avais ouvert le capital. Et le deuxième aussi point important, c'était que les clients ne partent pas. Donc, on a fait le nécessaire. On avait tout un plan et on a déroulé notre plan. Donc, avant de penser à croître, il faut déjà, quand on arrive, garder l'existant. Parce que si l'existant s'écroule comme un château de cartes, on construit sur du sable. Donc, moi, mon obsession, ça a été de garder le chiffre d'affaires, de garder la rentabilité, de garder les talents, de garder les clients. Ça, c'était étape numéro un. On garde l'existant. Étape numéro 2, la croissance. Donc, croissance organique, croissance externe. Et donc, pour la croissance, on a investi en recherche et développement pour lancer des nouveaux produits et des produits différenciés à forte valeur ajoutée. Donc, c'est un peu une courbe en U. Et j'avoue que j'ai eu la chance d'avoir des investisseurs expérimentés, compréhensifs, qui ont compris que de temps en temps, il faut investir pour récolter plus. Et donc, on a fait une petite courbe en U puisqu'on a décidé d'investir assez massivement dans un centre de recherche et développement qui, derrière, ont sorti des produits tout à fait performants qui ont accéléré la croissance et les marges brutes de l'entreprise.
Merci beaucoup, Renaud. Donc, on se rend compte qu'il y a une grosse part de capital humain pour la réussite donc, d'une opération de MBI. Quelle autre façon tu vois de gérer justement les risques associés à MBI, surtout dans les industries peut-être en pleine mutation ou très volatiles?
Alors, je vais me permettre de rebondir sur
Bien
ton
sûr.
Point. Le capital humain, en fait, c'est l'élément essentiel de la réussite d'une entreprise. Je pense qu'en tant qu'investisseur, nous, quand on regarde un dossier, c'est les trois éléments clés, c'est le capital humain. Et donc, pourquoi ? Parce que on est à peu près sûr que dans l'avenir, on aura des bonnes surprises et des mauvaises surprises. Les mauvaises surprises, une équipe de management performante va réussir à faire le dos rond et minimiser l'impact de ces événements extérieurs négatifs. Exemple Covid, exemple Ukraine, crise des semi-conducteurs, peut-être un jour Taïwan, crise au Moyen-Orient, etc. Donc, on sait que sur une période de 5 ou 6 ans, il y aura très probablement un signe noir. Et donc, si on mise sur une équipe qui est capable de faire le dos rond quand il y a des mauvaises surprises externes, ça, c'est un peu l'assurance vie de l'investisseur. Et puis, le deuxième élément, c'est qu'il y aura des bonnes surprises. Par exemple, des sociétés, on ne pensait pas qu'elles étaient à vendre, qui vont être à vendre, ou des sociétés rachetées à la casse ou des choses comme ça. Et là, le management, en fait, la qualité du management permet de saisir ces opportunités de façon très positive et très déterminée. Voilà, donc les bonnes et les mauvaises surprises, elles peuvent se bonifier, elles peuvent être des opportunités à partir du moment où on a du capital humain de premier niveau.
Donc, capital humain extrêmement important. Alors toi, à l'époque, quand tu as fait l'opération avec Exéol, comment tu t'es constitué donc, ton équipe de direction et surtout quelle qualité tu recherchais? Parce que bon, forcément, on s'entoure aussi de compétences que l'on n'a pas forcément. Donc toi, à l'époque, quelles étaient tes compétences justement et qu'est-ce que tu recherchais chez les autres candidats?
Alors moi, c'est simple, je ne savais rien. Donc,
très modeste.
je comprenais la finance et c'était assez simple parce que la direction financière était... était, comment dirais-je, un peu sous-calibré pour un LBO, mais le reste, je le découvrais complètement. Encore une fois, je me suis appuyé sur les gens qui étaient en place. Au fur et à mesure que j'ai connu l'entreprise et j'ai découvert l'entreprise, j'ai pu voir qui faisait l'affaire et qui faisait pas l'affaire. Et au fur et à mesure, j'ai remplacé les gens qui faisaient pas l'affaire par des gens qui étaient plus performants. Après, de façon générale, ça, c'est chacun son point de vue. Mais moi qui suis rugbyman, je dois le confesser, pour le succès d'une équipe, il y a deux règles simples. La première chose, c'est que il faut que l'équipe soit composée de gens performants. Et puis la deuxième chose qui est très importante, c'est qu'il faut que les gens performants aient envie de se passer la balle, c'est-à-dire qu'il y a un esprit d'équipe. Si on met des stars et des divas qui se passent pas la balle, qui jouent pas collectif, c'est une catastrophe. Donc, il faut à la fois chercher des gens qui sont performants individuellement, créer une culture d'entreprise, créer un état d'esprit qui font que ces gens performants ont envie de travailler ensemble, créer une synergie, parce que moi, je crois beaucoup en travail d'équipe. Et quand trois cerveaux à peu près bien faits travaillent sur un projet, c'est beaucoup mieux qu'un seul cerveau.
Merci beaucoup, Renaud. Alors, tu as parlé donc de la transition, donc dès que tu es arrivé, donc du fait que le président est resté pendant 6 mois pour t'accompagner et qu'il soit par la suite resté au board. Mais sinon, quelles autres stratégies as-tu mises en place pour assurer justement cette transition en douceur, à la fois pour les employés et toutes les parties prenantes à une opération donc de MBI?
Alors c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire que j'ai analysé avec l'équipe de direction en place ce qui allait, ce qui allait pas. Je crois que ce qui est très important quand on arrive en MBI, dirigeant MBI, c'est déjà envoyer un message sur lequel généralement on peut avoir une adhésion assez forte et assez large, de dire je juge pas l'entreprise de l'extérieur parce que je ne sais pas. On va s'asseoir ensemble, on va essayer de voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et ce qui marche, on va le garder, on va construire dessus. Et ce qui marche pas, on va essayer de le faire évoluer et de l'améliorer ensemble. Une des craintes que je pense qu'avaient les gens de l'entreprise et peut-être certains clients, c'est de voir un jeune Parisien surdiplômé qui arrive et qui peut-être avait des idées préconçues dans sa tour d'ivoire. Et donc, il faut vraiment lutter contre ça, être très humble, très terrain, très à l'écoute. Et puis après, encore une fois, co-construire ensemble, en gardant ce qui va bien et derrière en réformant et en améliorant ce qui ne va pas bien.
Alors justement, qu'est-ce qui marchait bien, qu'est-ce qui n'a pas marché? En fait, comment l'opération de MBI a-t-elle eu un impact sur la stratégie globale de Excel?
Alors là, c'est un vaste sujet, hein, parce qu'on pourrait passer fonction par fonction. Donc l'idée, ça a été de professionnaliser toutes les fonctions de l'entreprise. Par exemple, sur la partie commerciale, de mettre en place un tableau de suivi des priorités commerciales, tout simplement, quelles sont les discussions en cours sur des nouveaux marchés, que ce soit avec des clients existants ou des prospects, et de classer ça par taille, en millions d'euros ou en centaines de milliers d'euros à l'époque, de marge brute. Voilà, donc on a un tableau décroissant et nous, on va mettre les efforts sur les projets qui ramènent 300-400 000 euros de marge brute et peut-être un peu moins d'efforts sur les projets qui ramènent 10 000 euros de marge brute. Donc rien que d'avoir une vision claire, en fait, de, je dirais, des potentialités de développement commercial pour allouer nos forces, y compris d'ailleurs en R&D. Les gens de R&D, je leur disais, mettez plus de temps sur un dossier à 400 000 de marge brute que sur un dossier à 10 000. Or, quand je suis arrivé, c'était un peu celui qui gueulait le plus fort, qui avait le plus de ressources, y compris de R&D. Et donc, j'ai mis un petit peu d'ordre là-dessus. Après, il y avait des méthodes comme la gestion de projet, donc les rétro-planning pour développement de nouveaux produits. Donc, j'ai mis en place, un peu comme de façon très industrielle, des diagrammes assez typiques dans l'industrie de rétro-planning. En disant, il faut sortir le produit dans 6 mois. Hein, le client va lancer le produit en 6 mois. Qu'est-ce qu'il faut que l'équipe fasse la semaine prochaine pour que dans 6 mois le produit sorte? Et donc voilà un rétro-planning avec qui fait quoi quand. Donc ça, c'est un genre d'outils, des genres d'outils qu'on a mis, et avec en plus des coordinations au niveau commercial, marketing, R&D et production. Parce que la R&D va faire la formule produit, le marketing va choisir un packaging. Le packaging, il faut qu'il passe sur la ligne de production, donc la production doit être impliquée dans le projet. Et puis après, le commercial qui doit avoir ses informations pour échanger avec le client. Donc, des groupes multifonctionnels avec des outils communs de gestion de projet, donc le fameux rétro-planning. Après, bon, on a investi dans l'R&D, on a recruté une pharmacienne de très haut niveau pour venir nous faire des produits cosmétiques, des produits désinfectants, donc des produits avec beaucoup plus de valeur ajoutée que les détergents et désinfectants très simples. Bon, et puis après, on a fait de la croissance externe. Bon, on a mis aussi en place un suivi, je dirais, un peu contrôle de gestion. Ce qui a été extrêmement utile parce que j'ai dans le timing du rachat du MBI, ça a été vraiment, le timing était le pire, puisque j'ai racheté une société finalement qui achetait de la pétrochimie en 2004. Le baril avait été à $30 en moyenne pendant une quinzaine d'années. Et quand je suis arrivé, le baril est passé de $30 à $125, sachant qu'on avait des marges brutes de l'ordre de 35% en moyenne, donc 65% des achats matières qui sont passés d'un indice 30 à un indice 125. Ça veut dire une révolution totale, à la fois pour nos fournisseurs, pour nous et pour nos clients, et une nécessité de se réinventer. Et dans la réinvention, il y a eu effectivement un réaménagement de l'équipe, hein, puisqu'il y a eu des gens qui ont pu passer en mode de crise, d'autres qui n'étaient pas calibrés pour passer en mode de crise. Mais il a fallu se réinventer. Hein, quand, encore une fois, votre matière première passe d'un indice 30 à 125, si vous restez les bras croisés, vous déposez le bilan. Donc, il a fallu se réinventer, il a fallu travailler sur les achats. Et en contrôle de gestion, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un contrôle de gestion des marges brutes unitaires en euros. Pourquoi ? Quand vous avez le baril qui passe de 30 à 130, si vous essayez de maintenir votre taux de marge, par exemple, admettons à 35, vous augmentez trop les prix de vente et vous perdez vos clients. Si vous avez besoin d'un euro de marge au bidon, votre taux de marge, il peut passer de 50 à 20 parce que le baril est passé encore une fois de 30 à 125. Mais l'important, c'est que vous gardiez le 1 euro au bidon. Donc, votre taux de marge apparent, taux de marge, il baisse fortement. Mais l'important, c'est la marge brute en unitaire. Et ça, que ce soit les achats, le commerce, n'avait pas forcément bien en tête ce genre de paramètres. Donc, on a fait des tris de marge brute unitaire. Et évidemment, dès qu'il y avait une marge brute unitaire qui était négative, on passait des augmentations qui étaient entre 0 et 15%. On savait qu'on gagnait quasiment pas d'argent. Donc voilà, on a mis un contrôle de gestion performant qui était hyper important et qui nous a sauvés dans cette période d'ultra-inflation des matières premières.
Donc, beaucoup de stratégies au final mises en place donc pour assurer à la fois la transition, mais aussi le succès de l'opération. On sait aussi, enfin voilà, pour les personnes entre guillemets qui ne sont pas forcément du milieu de la finance, de l'entrepreneuriat, certaines d'entre elles ont parfois une mauvaise vision entre guillemets des opérations financières type LBO ou voilà, MBO, MBI. Quelles ont été les réactions à la fois internes et externes suite à cette opération ? Est-ce qu'il y a eu des surprises ? Est-ce qu'il y a eu des collaborateurs, des employés qui ont peut-être pas mal digéré la nouvelle parce que en pensant que ça va être surtout une opération financière et donc peut-être changement total de la stratégie et de la culture d'entreprise.
Alors je dirais oui, il y a eu des surprises. La première, c'est que je pense les employés avec lesquels les employés ont été très surpris en fait de mon approche, puisque j'ai eu une approche extrêmement terrain. Donc, j'avais 4 usines, je faisais beaucoup de kilomètres à l'époque pour visiter les clients et puis j'ai tenu à visiter chaque usine chaque semaine. Donc, je faisais une semaine une usine, une deuxième semaine une deuxième usine et ainsi de suite. Et en étant très proche du terrain, donc en saluant toutes les personnes quand je venais dans une usine, je venais pas juste saluer la direction de l'usine, en écoutant ce qui allait pas, en prenant du temps, en disant tiens ta machine, etc. Une des choses que j'ai faites également, c'est d'introduire des plans de productivité et des plans d'organisation industrielle. J'ai également, et ça c'était une surprise pour les employés, à l'époque dans les entreprises, je dirais non cotées, hein, les petites entreprises PME familiales, il y avait peu de communication à la fois sur la stratégie et sur les finances d'entreprise. Et ce que j'ai fait, c'est des réunions annuelles. Donc, je l'ai fait peu de temps après que je sois arrivé pour dire, voilà, quelle est la stratégie qu'on souhaite mettre en place pour chacune des activités de l'entreprise, pour chacune des divisions de l'entreprise. Quelle est la stratégie ? On vous explique pourquoi, en fait. Donc, quelles sont les dynamiques de marché ? Qui sont nos concurrents ? Et en conséquence, quelle est notre stratégie ? Et puis, également, quel est notre chiffre d'affaires ? Quelles sont nos marges ? Quels sont nos résultats ? J'ai mis par ailleurs, alors c'était déjà en place, il y avait un intéressement, on avait des sociétés qui avaient moins de 50 personnes, mais on avait un intéressement, hein, qui était volontaire. on n'avait pas de participation légale, mais on avait un intéressement. Donc déjà, on avait fait participer les employés au, je dirais, au bénéfice de l'entreprise. Et donc, rien que le fait de prendre 2 heures chaque année pour leur expliquer, le prendre leur temps, de leur expliquer la stratégie et leur faire un état des lieux des finances de l'entreprise, ça aussi, ça a été extrêmement bien perçu parce que parce qu'ils n'avaient pas cette information et je pense que c'est une marque de respect de communiquer les résultats à ceux qui contribuent à faire ces résultats. Par ailleurs, j'ai fait des voyages tous les 2 ou 3 ans, j'emmenais une partie des usines faire des voyages à l'étranger, tout payé par l'entreprise. Et alors absolument tout le monde venait, hein, c'est pas juste le comité de direction, toute l'usine venait et donc on a pu faire des très beaux voyages au Maroc, à Dubaï, avec l'ensemble de mes usines.
Bah, c'est intéressant. Alors, pour les gens qui nous écoutent, prenez-en de la graine et invitez voilà, toute votre équipe pour les voyages comme celui-ci. Donc, Renaud qui a une agence de voyage maintenant.
non,
là, c'est effectivement, c'est très important.
Mais,
et je pense
mais ça crée du lien. Et puis, si vous voulez, on est parti une fois, je raconte une anecdote, parce que l'entreprise, c'est de l'humain. On est parti une fois à Marrakech. Et je faisais attention à ce que mes collaborateurs ne voient pas dans quelle chambre je dormais, parce que sinon ils allaient taper à la porte pendant toute la nuit. à la fin du voyage de 3-4 jours, je vais pour régler ma note et puis pour régler tout ce qui n'avait pas été réglé. Et l'ensemble de je crois qu'il y avait une centaine de personnes qui me regardaient. Ils étaient tous au courant, j'étais le seul à pas être au courant. J'ai regardé la note, il y avait 100 bouteilles de rosé. Ils avaient trouvé ma chambre et ils avaient chargé leur bouteille de rosé sur la chambre. Je me suis retourné avec un grand sourire et tout le monde a explosé derrière. Et c'est ce genre aussi de choses qui créent les états d'esprit, les cultures et les bonnes anecdotes dans l'entreprise. Et moi, j'y suis très, 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 très attaché. Encore une fois, et je vais parler de la surprise, mais moi, ce qui m'a vraiment frappé dans mes usines en province, c'est la bonne volonté. La bonne volonté du personnel, quand on respecte le personnel, qu'on le traite bien, qu'on le motive, qu'on le valorise, l'atout principal d'une entreprise, c'est pas ses machines, c'est pas ses brevets, c'est pas ses produits, c'est la qualité des gens et la motivation des gens. Et ça, vous le retrouvez, si vous êtes, reprenez une casquette financière, les taux de rentabilité, en fait, vous les retrouvez. Et quand j'en fais mon LBO secondaire, les financiers, enfin les fonds d'investissement qui s'intéressaient au LBO secondaire m'ont posé des questions, c'est quoi votre avantage concurrentiel? Je leur ai dit, je vais vous faire une réponse qui ne va pas vous plaire, mais qui est la vérité, c'est que c'est la qualité de mes équipes et la motivation de mes équipes. Alors, ce n'est pas mesurable, à part qu'on a des rentabilités, on a des productivités très supérieures à nos concurrents, et c'est comme ça que je mesure la qualité et la motivation de nos équipes. Pour revenir à ta question sur la surprise, donc la première surprise, c'est qu'en fait, c'est un peu mes employés qui ont été surpris du fait que je ne suis pas resté dans mon bureau, mais j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps pour comprendre le terrain. Et j'ai appris énormément de choses qui m'ont été d'ailleurs utiles pour construire et adapter la stratégie. Et puis par ailleurs, j'ai un de mes concurrents quand même qui a vu un jeune blanc-bec parisien débarquer qui n'avait jamais vu d'usine et qui a donc attaqué, qui a fait une guerre des prix en se disant « ben il fait un MBI, donc il est inexpérimenté, et en plus il a beaucoup de dettes, donc il est faible, et c'est à ce moment-là qu'il faut l'attaquer. » Et donc j'ai eu une guerre des prix, j'ai un concurrent sur l'automobile qui m'a attaqué, qui m'a pris un très gros marché. Alors pour la petite histoire, bon évidemment j'ai donné instruction avec mes équipes, on a repris un très gros marché, il m'avait pris 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, je lui ai pris 6 millions. Et je l'ai appelé après en disant regarde mon bilan, regarde ton bilan, je pense qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là pour toi. Et finalement cette société, on nous l'a proposée à la vente pour 30 millions d'euros. Et crise de 2008 arrive, nous on avait un bilan sur lequel j'ai toujours insisté pour avoir du cash, parce que le cash ça permet c'est l'assurance contre les mauvaises nouvelles. Et en 2008, lui a déposé le bilan. Et donc, au lieu de le racheter 30 millions d'euros, on l'a racheté 300 000. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Une mauvaise nouvelle, la crise de 2008. Je rappelle, moins 40% des immatriculations automobiles. Donc, ça a été, en plus des augmentations du pétrole, mais ça a été un tsunami, hein, la 2008 dans l'automobile. Moi, j'avais insister pour ne jamais prendre de marché en première monde, c'est-à-dire la fabrication des voitures. Et au contraire, je vendais ce qu'on appelle dans l'aftermarket, c'est-à-dire la rechange pour par exemple en GMS, pour du liquide de frein, la personne qui s'est changé son liquide de frein, ou dans des garages, etc. Et donc, je n'étais pas exposé aux nouvelles immatriculations, c'était un business très stable puisque c'était lié au parc de véhicules existants qui ne fluctue pas. Voilà. Et donc, le fait d'avoir eu du cash a permis de racheter cette entreprise avec, et là, je salue mes investisseurs qui m'ont laissé faire cette opération, le feu vert de mes investisseurs majoritaires pour acheter une société en dépôt de bilan, ce que le fonds d'investissement n'aime pas faire parce que ça met en risque la plateforme dans laquelle ils ont investi.
Tout à fait. C'est impressionnant comme histoire, comme quoi tout peut basculer au final très rapidement. Une société qui était pérenne, donc ton concurrent à l'époque qui était aussi... Vous faisiez à peu près la même...
Quand il m'a attaqué, il était beaucoup plus gros que moi. Et nous, nos commerciaux avaient peur. Tout le monde avait peur de lui. Et donc, au départ, je pense que peu de gens misaient sur nous. Hein, ils pensaient qu'on allait se faire manger. Enfin, plumé comme un lapin, je ne suis pas sûr que c'est la bonne expression. Mais en tout cas, on allait se faire bouffer. Et finalement, à force de patience et bon, faut dire de mauvaise gestion en face, nous on a résisté et eux ils ont déposé le bilan et on a pu les racheter dans des conditions très intéressantes.
Alors on sait souvent Renaud que dans les opérations donc de LBO, enfin voilà de MBI en l'occurrence pour ce podcast, qu'il y a un horizon de sortie. Comment tu as géré la sortie justement du capital et est-ce que c'était plutôt une opportunité? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moment donné, vous aviez reçu une offre qui était intéressante à la fois pour les actionnaires, mais aussi surtout pour l'entreprise? Voilà, comment ça s'est passé? Comment surtout tu as préparé cette sortie?
Alors, sur la sortie, en fait, du premier LBO sur lequel j'étais entré à MBI, en vérité, j'ai eu quand même finalement peu la main, puisque le fonds majoritaire a mandaté une banque d'affaires qui a fait un infomémo avec les informations qu'on lui a communiquées et qui a envoyé l'infomémo à d'autres fonds. Donc, j'avais quand même signalé... De toute façon, j'avais 40 ans, donc j'étais évidemment réinvestisseur. Et la piste privilégiée était un LBO secondaire. D'accord. Bon, il pouvait y avoir quelques acheteurs intéressés, mais pas tellement, parce que j'avais une activité automobile et une activité... je dirais détergent collectivité et puis santé donc
soit tu scindais enfin tu cédais les activités séparément
exactement et c'est d'ailleurs ce qui s'est fait à l'issue du deuxième LBO hein, puisqu'on a vendu après le deuxième LBO on a vendu l'automobile à un des industriels d'automobile très connu, une famille industrielle du Nord, et puis la santé on l'a vendu à un groupe de santé. D'accord. Effectivement, ça a été la deuxième sortie après le deuxième LBO.
Donc, plus compliqué aussi à gérer, j'imagine, quand on scinde les activités, on scinde la session, entre guillemets. Et donc, tu as géré, est-ce que tu as participé, bon, forcément, au processus, mais tu as accompagné aussi la banque d'affaires qui avait été mandatée à l'époque. Tu as été vraiment partie prenante à le...
Ah bah, de toute façon, oui, puisque c'est mon équipe qui donnait les informations. Mmh. Et puis après, on fait ce qu'on appelle maintenant les coffee meetings, les management presentation. Donc... en fonction du fit avec l'investisseur, très rapidement, on voit avec qui on a envie de travailler ou pas. Quoi.
Et toi, tu avais, parce que bon, fonds majoritaire, mais tu avais aussi ton mot à dire sur le choix du futur repreneur.
Alors oui, de façon générale, moi j'avais 12% du capital à l'époque, hein, mais étant le dirigeant et puis... même si sur la première opération, ça n'a pas été des retours très élevés, parce qu'encore une fois, on a eu le pétrole, on a eu la crise de 2008. Et puis, on a eu également, enfin ça, c'était un épiphénomène mais qui ne nous concernait que nous, mais notre premier client qui était un distributeur s'est fait racheter par un industriel allemand. Et donc, l'industriel qui fabriquait a rapatrié dans ses usines toutes les fabrications que le distributeur ne faisait pas. Et donc, on a perdu notre premier client par un acte de M&A. Donc, ça c'est aussi, ça fait partie de ce que j'appelle, je disais tout à l'heure, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Donc, il faut être capable de rebondir et de faire du développement commercial quand on perd son premier client. Bon. Donc, la première opération a été un rendement inférieur à ce qu'on a d'habitude. La deuxième, on a fait 25%. Donc, ça, on était très contents. Mais effectivement, à prix équivalent, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, à peu près équivalent, c'est-à-dire à 5% près, on peut quand même choisir son investisseur.
Est-ce que tu as le droit de communiquer sur certaines informations financières, valorisation, ou c'est à ce stade, c'est confidentiel, et on passe à une autre question?
On passe à notre question.
Très bien. Alors, comment le marché a réagi à l'opération Comment le marché a-t-il réagi à l'opération? Donc, vous avez vendu les activités séparément. Est-ce que il y avait de la compétition sur ces activités-là? Est-ce que les acheteurs ont été réactifs, surtout dans un contexte peut-être qui était post-crise? Donc, comment ça s'est passé au final le processus de cession du groupe?
Alors, sur la partie automobile, en fait, on a été contacté par un industriel. Donc là, ça a été un appel entrant d'un industriel très sérieux qu'on rencontrait puisque c'était un de nos concurrents. Et quand j'ai racheté, enfin quand notre groupe a racheté Assia, qui était donc la société en dépôt de bilan à Doullens près d'Amiens, on a redressé l'entreprise avec notre équipe. On a redressé l'entreprise assez rapidement puisqu'on on connaissait bien cette entreprise et notre activité était concurrente, donc on connaissait bien les produits, les clients, les fournisseurs. Et on a commencé à prendre des parts de marché. Ce groupe concurrent voyait d'un mauvais œil le fait qu'on redéveloppe l'entreprise qui avait perdu beaucoup de parts de marché pendant une dizaine d'années. Et là, on grignotait, on récupérait ce qu'on nous avait pris. Et donc, on a suscité, entre guillemets, un appel entrant en disant, écoutez, vous êtes un concurrent assez agressif, vous prenez des parts de marché, nous, ça nous pénalise. Est-ce qu'on peut pas se regrouper? Est-ce qu'on peut pas vous acheter? Donc bon, je dis bah oui, pourquoi pas, mais à quel prix? Donc on s'est mis d'accord sur le prix et puis industriellement ça fait du sens. Je dirais, moi j'avais une usine automobile qui était une ancienne usine Renault, l'usine qu'on a rachetée à Doullens avec un personnel merveilleux, Assia, que je salue si jamais il y en a qui écoutent. Qui a fait un travail formidable pour redresser l'entreprise avec nos équipes. Et ce qui était sympa, c'est que finalement, en intégrant un groupe industriel performant familial, donc avec des impératifs, enfin avec une vision long terme, avec vraiment une notion d'investissement, de patience, enfin pas des financiers court-termistes, mais deux usines ont trouvé une pérennité. Et en particulier, l'usine qui avait déposé le bilan, les gens sont toujours là. On a réembauché des gens qui avaient été licenciés lors du redressement judiciaire. Et donc, c'est, pour répondre à une de tes questions, je veux dire, un investissement qui est bien fait, c'est du développement, c'est de la création d'emplois, c'est de la pérennisation de bassins d'emploi dans les territoires. Et donc, c'est très bon pour la France.
Tu as répondu en partie à la prochaine question qui était comment toi tu évalues le succès d'un MBI, parce que évidemment il y a toujours les performances financières, mais pas que. Selon toi, avec ta casquette entrepreneur, parce que c'est ce que tu es avant tout au final, avec ton âme entrepreneuriale, on va dire, comment toi tu évalues le succès d'une opération de MBI à l'issue, voilà, quand t'es sorti membre du groupe Exéol?
Il faut, en fait, que je dirais, de façon générale, il faut que tous les parties prenantes s'y retrouvent. Et il faut raisonner sur une pérennité et sur du long terme. Exemple, tord le cou à un petit fournisseur pour augmenter ses marges provisoirement. Si le fournisseur dépose le bilan et que derrière vous êtes plus approvisionné d'un composant clé, c'est pas très intelligent à moyen long terme. Donc, il faut avoir une politique équilibrée avec les clients et les fournisseurs. De la même façon, surcharger des clients, c'est pas intelligent. Un jour ou l'autre, ils vont s'en apercevoir, ils vous en voudront, ils vous quitteront. Donc, il faut avoir des relations équilibrées avec ses clients fournisseurs, acheter au bon prix, vendre au bon prix, sans exagérer, payer les employés des bons salaires qu'ils aient pas envie d'aller voir ailleurs, mettre une culture d'entreprise dans lesquelles les gens sont écoutés, valorisés, motivé, et quand toutes les parties prenantes sont respectées, valorisées et motivées, ça marche bien et on a quelque chose qui est très solide, on peut construire sur du solide. À l'inverse, si on veut maximiser pour deux points de TRI, serrer la vis sur les fournisseurs, surcharger les clients, etc., ça va durer 3, 4, 5 ans et puis après ça va se dégonfler. Donc je pense qu'il est important, c'est de construire pour durer. Les Anglais, il y a un bouquin formidable qui s'appelle « Build to Last », construire pour durer. Et je pense qu'un vrai industriel, un vrai patron d'entreprise, ne joue pas pour 3-5 ans, il joue pour 20-25 ans.
Alors, est-ce que tu peux partager une réussite, peut-être même personnelle, qui t'a marqué, ou un événement peut-être marquant depuis le MBI avec Exéol? Est-ce que peut-être tu t'es découvert des compétences que tu ne voyais peut-être pas forcément avant? Quelle était ta réussite personnelle suite à cette opération?
Alors moi ce que j'ai surtout réussi, je sais pas, il y a eu des réussites managériales comme la reprise et le redressement d'une entreprise en dépôt de bilan. je crois que la réussite qui me reste en mémoire, c'est surtout aider certains collaborateurs, certaines personnes de l'équipe à se surpasser et à faire des choses qu'au départ eux-mêmes pensaient impossibles. Et je donne un exemple. J'avais quelqu'un qui travaillait dans le laboratoire qui mettait au point des formules, un chimiste, qui était plutôt introverti et assez timide, que j'ai amené avec moi en clientèle quand on parlait de nouveaux produits avec des clients, et qui a pris goût, en fait, à aller en clientèle, et qui, à un moment donné, 12 ou 18 mois après, est passé commercial. Et donc, quelqu'un qui était très timide est devenu commercial, a appris à parler aux clients, et comme il connaissait très bien la technique, ça a été un de nos meilleurs commerciaux. Et quand je l'ai rencontré au fin fond de son laboratoire, qui rougissait quand j'arrivais dans la salle, 2 ans après, c'était notre meilleur commercial. Et je pense que si je lui avais dit « tu seras commercial un jour », la première fois que je lui ai dit, il aurait pensé que j'étais encore plus intrigué que j'avais l'air. et donc voilà, donc il y a de la même façon, quand on a repris Asia, une autre anecdote, il y avait une ligne sur laquelle, bon, il y a beaucoup de lignes sur lesquelles on a fait de la réorganisation industrielle, mais il y avait une ligne sur laquelle on n'avait rien fait du tout, une petite ligne sur laquelle il y avait un seul opérateur. Et quand on a regardé les statistiques de productivité, 3 mois après la reprise, il fabriquait 30% de produits en plus avec aucune modification sur la ligne. Et ça, c'est quoi? C'est la mesure de la motivation d'un employé qui se sent respecté. Et ça, je pense que c'est un message très très fort que j'ai toujours à cœur. Investissez dans l'humain, ils vous le rendront bien.
Mais c'est effectivement un message très fort et je te remercie vraiment de le souligner parce que c'est extrêmement important, bien au-delà de la performance financière. Dans tous les cas, ça découle, la performance financière découle justement de ce capital humain. Et je pense aussi peut-être, tu me diras ton point de vue, est-ce que le fait que aussi t'es rugbyman, donc t'es aussi cet état d'esprit collectif, sportif, et on sait que voilà, dans le rugby, il y a une très forte cohésion, dans toutes les équipes, je ne sais pas, mais est-ce que c'est ça qui a permis aussi d'avoir cette ouverture d'esprit et cette volonté d'accompagner vraiment tes collaborateurs et pas juste d'être un homme de finance, mais être un homme de terrain avant tout?
Alors oui, ce que je disais tout à l'heure, en fait, quand dans un sport, là, nous on était 330 au plus haut du groupe, on est 330, c'est pas une personne qui fait gagner, il faut gagner à 15, on gagne ou on gagne à 15 ou on perd à 15. Et donc ça c'est fondamental que le message vienne d'en haut et d'être exemplaire là-dessus. Je donne une anecdote, quand on a racheté Asia, donc en redressement judiciaire, on m'a demandé, les gens de l'usine m'ont demandé « Ah, quel hôtel voulez-vous qu'on vous réserve ? Attention, quand vous sortez, il y a un maître chien, etc. qui sécurise l'usine. » Je lui dis « Non, vous allez m'installer un lit dans mon bureau. La boîte ressort d'un redressement judiciaire. Il faut faire des économies. On va montrer l'exemple. » Et j'ai dormi dans mon bureau. Ils m'ont installé un truc. Il y avait une douche, ça allait très bien. Puis j'ai demandé que les gardes du maître chien soient divisés par deux, puisque ayant un sommeil assez léger, finalement, s'il y avait quelque chose, je me levais et puis je faisais l'affaire. Hein. Donc, je crois que c'est très important de montrer l'exemple. Tout le personnel est très, très attentif et regarde extrêmement les détails de ce qui est fait et comprennent très bien. Et quand vous montrez l'exemple, encore une fois, les gens eux-mêmes deviennent exemplaires. Et puis après, il y a aussi un très bon état d'esprit quand vous communiquez. Un autre exemple, sur une ligne de production. À la fin des lignes de production de conditionnement, sur les petites lignes de conditionnement, sur les grosses lignes, on avait des robots qui mettaient les bidons dans des cartons. Ces toutes petites lignes, les petites quantités, il y avait des gens qui les faisaient manuellement. Et je parle une fois à quelqu'un qui mettait des bidons dans un carton, qui me dit, vous savez, monsieur Besançon, mon travail, c'est quand même pas très intelligent, j'ai peu de valeur ajoutée, bon. Mais je dis, mais attendez, réfléchissez à ce que vous faites. Quand vous mettez un flacon dans un carton, si le flacon, il est fuyard, le bouchon est mal vissé, il y a du liquide qui coule. Si le liquide coule dans le carton, au moment où le client va prendre le carton va s'effondrer. Et donc, c'est notre entreprise, l'entreprise qui vous paye, c'est notre entreprise qui va envoyer un mauvais produit. Donc, vous êtes la personne, vous êtes le lien entre notre entreprise et le client. Vous êtes le messager du produit, le messager vers le client. Et si vous travaillez mal, c'est l'ensemble de l'entreprise qui est jugé qui a de mauvaises notes vis-à-vis du client. Donc en fait, vous êtes un élément fondamental dans le lien de production, dans la chaîne de production, dans la chaîne de valeur. Et si vous faites mal votre travail, on sera pénalisé, on perdra des marchés, d'ailleurs vous perdrez votre emploi. Mais si vous le faites bien, le client sera satisfait, y compris à cause de vous. Juste le fait de passer 3 minutes à expliquer ça, il a vu son travail d'une autre façon.
C'est un message extrêmement fort parce que au final, tu as considéré et tu as mis en valeur son travail et c'est parfois, je pense que c'est ce qui manque aussi dans les communications que l'on peut avoir avec des collègues de travail ou même des relations avec ses supérieurs. Bah, juste le fait de sentir, je pense, valorisé, considéré, bah, c'est quelques mots, mais c'est du temps que tu as consacré, c'est ce que tu lui as dit qui lui a permis vraiment de se rendre compte de l'importance qu'il avait. Et je pense que ça, c'est essentiel et on l'oublie peut-être trop peu. Donc vraiment, c'est un message important et ça fait plaisir aussi de l'entendre de ta part. Et comme quoi, les financiers, entre guillemets, bon, parce que tu n'es pas que financier, ont cette vision-là et je te remercie de le mettre en avant.
Je sais aussi calculer un TRI et un multiple d'investissement, mais tout ça, ce sont des conséquences. Et encore une fois, quand vous motivez les gens, quand on les emmène en voyage... et moi j'étais en économie avec tout le monde, j'avais les mêmes chambres, bien sûr tout le monde était ensemble, bah, vous envoyez un message d'exemplarité. Quand vous êtes proche de tout le monde, vous êtes à l'écoute. Sincèrement, la vérité c'est que les employés sentent si le patron est sincère ou pas. Si on dit le contraire, on dit des carabistouilles. Et donc, si vous avez vraiment beaucoup de respect, et je vais dire un gros mot, peut-être un mot qui est incongru dans l'entreprise, mais j'ai de l'amour en tout cas, une affection pour les gens qui travaillent avec vous et du respect, bah, vous pouvez faire des merveilles. Et derrière, les taux, par exemple, de non-qualité bah, baissent parce que les gens font très attention, parce qu'ils sont impliqués, parce que bah, vous leur donnez des primes d'intéressement auxquelles légalement vous devez pas les avoir. Ça d'ailleurs c'est aussi un message fort parce que quand on a développé l'intéressement, on a négocié avec les représentants du personnel de chacune des 4 usines et en mettant en place ces systèmes, ils ont vu que ça pouvait leur faire quand même pas mal d'argent en fin d'année. Et ce qui est très intéressant, c'est que les représentants du personnel se sont un petit peu transformés en contrôleurs de gestion terrain dans chacune des usines. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait, un chef de ligne ou un responsable de production ou le patron de l'usine qui faisait une bêtise, bah, je pouvais avoir quand je passais dans l'usine, une petite remarque en disant « Ah, vous avez pas vu qu'il y a eu ça, etc. C'est bête parce que ça va baisser le résultat de l'entreprise. Nous, ça va nous pénaliser pour notre intéressement. » Et donc, ce n'était pas un phénomène de dénonciation, mais ça a été un phénomène de remontée d'informations assez transparente à tous les niveaux. Et on a eu des bonnes idées, on a eu tout un tas de propositions d'amélioration, en fait, qui sont venues de l'ensemble des usines parce qu'on a mis en place ce système. Et finalement, entre l'amélioration, l'augmentation du résultat de l'entreprise est très supérieur à ce qu'on a payé en investissement, en participation ou en intéressement, pardon. Intéressement. Oui, donc en fait, je ne sais pas si on a payé 150 000 d'intéressement, bah, on a eu peut-être 200 ou 300 000 de résultats. Donc encore une fois, c'est de l'investissement dans l'humain. Et je reviens à ce que je disais, hein, tout ça est congruent, c'est le capital humain. Et donc quand on investit dans l'humain, c'est le meilleur TRI qu'on peut avoir.
Merci beaucoup Renaud. Alors on va approcher de la fin de ce très bel échange et qui est vraiment passionnant, en tous les cas qui me plaît beaucoup et dans lequel tu as vraiment délivré des superbes conseils. Alors je vais te redemander encore pour clôturer cet échange des conseils que tu pourrais donner justement à un dirigeant qui souhaiterait mettre en place un MBI. Voilà, à l'issue de tout l'échange, évidemment tu as donné que des conseils à l'issue de tes opérations que tu as pu faire. Voilà, quels seraient les conseils principaux, les plus importants que tu pourrais donner à un dirigeant ?
Alors, je ne sais pas si je suis en mesure de donner des conseils. Je peux peut-être exprimer ce qui, moi, me semble devoir être fait et ce qui me semble devoir être évité. Dans ce qu'il faut faire, moi, je vois difficilement comment quelqu'un qui veut reprendre une société en MBI peut s'affranchir de faire un investissement financier très important. Encore une fois, si lui demande à des investisseurs tiers de mettre beaucoup d'argent, si lui met que 6 mois de salaire, c'est vrai que pour moi, il y a une inégalité assez claire. Donc, si tu y crois, tu mets tes actions et tes paroles en adéquation et tu t'investis lourdement. La deuxième chose, c'est aller voir plusieurs financiers, plusieurs fonds ou sociétés d'investissement sympathiques comme Zeta qui sont ouvertes à faire des MBI dans certaines conditions. Dans certains, donc avec un système de transition managériale et de transition actionnariale bien préparé, bien organisé et bien communiqué. Voilà, donc il faut en voir 2 ou 3. Puis après, assez rapidement, quand il y en a un qui accroche, il faut choisir parce que sinon l'investisseur va pas apprécier d'être mis en concurrence sur un dossier MBI qui est risqué, qui est compliqué. Donc sur ces choses-là, il faut assez rapidement voir avec lequel il y a un fit, ceux qui ont envie de faire les dossiers et assez rapidement travailler avec un seul, parce que sinon vous risquez de démotiver des gens qui sont pourtant intéressés par le dossier.
Et quelle est la chose la plus importante que tu as apprise à l'issue de cette expérience de repreneur en MBI?
Alors, encore une fois, je voudrais dire que c'est la gestion de l'humain. La gestion de l'humain, en fait, il y a plusieurs dimensions. Bon, j'ai appris que finalement, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, mais ça, je l'avais déjà compris à 33 ans quand j'ai racheté cette société industrielle. Depuis que j'ai vendu l'entreprise et que je ne suis plus dirigeant opérationnel, j'ai continué de réfléchir et j'ai vu avec un peu de recul ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, en particulier dans mes pratiques managériales. Finalement, j'étais très très proche des équipes de terrain, dans les usines, le commerce, les R&D, les laboratoires, tout ça. Et donc ça s'est très très bien passé, j'avais énormément de satisfaction et je pense que les employés appréciaient la communication assez claire et un style de management très proche du terrain. Avec les équipes de direction, c'était peut-être un peu plus difficile parce que venant de la finance, du private equity, du M&A, je fonctionnais un petit peu trop à 150%. Et des équipes industrielles de PME de province n'étaient pas habituées forcément à des rythmes de travail extrêmement intenses. Donc je pense que j'ai un peu trop demandé à mon équipe de direction, j'étais trop exigeant. Je voulais trop bien faire. De toute façon, j'avais tellement de gens qui me regardaient à la loupe, mon inexpérience, mon âge, etc.
Et qui attendaient le
donc voilà, donc j'étais obligé de réussir. Et donc, j'ai mis trop de pression sur mes équipes de direction qui n'étaient pas habituées à voir un entrepreneur un peu excité du ciboulot leur mettre autant de pression. Donc ça a été une de mes erreurs. Après, il y a ça, c'est la première chose. Donc, gestion des équipes terrain, gestion du CODIR. Après, il y a une deuxième dimension qui est gestion de crise et gestion de la croissance. Quand j'ai repris l'entreprise en MBI, c'était un peu une situation pas de crise, mais une situation dans laquelle il fallait avoir énormément de vigilance, travailler énormément et rassurer tout l'écosystème interne et externe. Donc, c'était beaucoup de travail, c'était beaucoup d'intensité. Et là, c'était une période qui m'a plu. Quand il y a eu la crise de 2008 automobile, ça m'a plu. Quand il y a eu le baril qui est passé de 30 à 125, c'était très intéressant. Quand on a repris Assia à la barre du tribunal, ça a été aussi passionnant. Et finalement, entre deux crises, parce qu'il y a eu beaucoup de crises, il y a eu aussi des opportunités, mais on revenait à un mode de gestion de la croissance classique, organique. J'ai fait une autre acquisition d'ailleurs dans la santé, je l'ai mentionné, mais quand on passait en mode gestion de la croissance entre 5 et 8% en croissance organique, c'est vrai que j'avais tendance à m'ennuyer un petit peu quand il n'y avait pas des crises ou des opportunités assez importantes. Et donc ça m'a fait aussi un petit peu remettre en question ma volonté d'être dirigeant de très long terme sur un groupe en croissance organique. Et puis alors, du coup, je suis redevenu investisseur. Ouais.
Merci beaucoup, Renaud. C'était vraiment très passionnant et je pense que toutes les personnes qui vont nous écouter vont apprendre beaucoup de choses. Je pense que bien plus rapidement qu'un MBA, peut-être, puisque tu as parlé comme un homme de terrain. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Tu veux apporter le mot de la fin ou même s'il y a des questions peut-être que je ne t'ai pas posées et qui te semblaient importantes? Voilà. En tout cas, tu as carte blanche pour clôturer ce très bel épisode et voilà, parler de tout ce que tu veux, tout ce que tu souhaites.
Alors, je voulais juste te dire qu'en fait, un MBI, c'est quand même très risqué. Mmh. Et donc, je dis attention, faites vraiment bien attention, faites vos due diligence, y compris de l'intérieur. Je pense que c'est vraiment très dangereux de parler copatron. Il faut pouvoir parler au cadre dirigeant de l'entreprise en tête à tête, c'est-à-dire sans que le patron soit là pour leur mettre la pression de telle sorte qu'ils ne disent pas les vrais points négatifs et les cadavres dans le placard. Donc, il faut pouvoir passer en tête à tête avec les cadres dirigeants et qu'ils disent ce qui va et ce qui ne va pas. Et puis, encore une fois, travailler avec eux, les mettre en confiance, les écouter. Parce que quand on est un MBI, un dirigeant MBI, on ne connaît pas l'entreprise. Donc, il faut avoir beaucoup d'humilité pour écouter, apprendre comme une éponge. Et puis après, évidemment, leur demander leur position sur ce qui va et ce qui ne va pas. Et puis après, vous faites votre propre opinion en recollant un peu l'opinion de tout le monde et votre propre jugement. Mais il faut avoir beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute et après construire ensemble un projet. Si vous pensez arriver avec des idées toutes faites de l'extérieur et imposer ça aux gens qui sont en place et qui savent mieux que vous, c'est la recette de l'échec, quoi, vraiment.
Merci beaucoup, Renaud. Donc, est-ce que pour les personnes qui vont arriver à la fin de cet épisode et qui auront peut-être tout écouté, reparler vite fait de Zeta peut-être pour les dirigeants qui envisageraient peut-être des opérations capitalistiques et peut-être qui viendraient pour qu'ils puissent venir aussi te contacter directement.
Alors merci Eliade de poser cette question. Donc Zeta, moi, c'est une société d'investissement familial entrepreneurial. Donc c'est une société, on a un bilan. On ne lève pas de fonds externes. Alors, notre métier, c'est du LBO majoritaire, principalement sur des dossiers primaires, mais on peut faire du secondaire. On investit des tickets usuellement de 10 à 40 millions d'euros en fonds propres, mais on a pu mettre jusqu'à 100 millions sur une opération. Nos particularités par rapport à la foultitude de fonds d'investissement institutionnels qui, eux, lèvent de l'argent auprès de bailleurs de fonds, nos spécificités sont au nombre de trois. La première, c'est qu'on n'investit que l'argent des quatre associés, donc principalement celui de M. Claude Darmon, qui est très connu de la place parisienne pour être le président de Cegelec, qui a fait trois LBO avec Cegelec, qui était à l'époque le plus gros LBO de l'histoire, 3 milliards et demi de chiffre d'affaires. Donc on est quatre associés, donc Claude, Grégoire Darmon, son fils, qui est directeur général, et puis deux associés non familiaux, dont moi-même. Mais on n'investit que l'argent des associés. Deuxième sujet, c'est nous sommes trois dirigeants, sur les quatre associés, on est trois anciens patrons de LBO. Ça veut dire deux choses. Un, on a nous-mêmes eu des stratégies de création de valeur, on a nous-mêmes choisi des équipes, on a nous-mêmes contrôlé l'exécution par nos équipes de la stratégie de création de valeur co-construite avec les équipes. Donc on a nous-mêmes fait la création de valeur opérationnelle. Et donc, quand on rachète une entreprise et qu'on accompagne les dirigeants de cette entreprise, nous, on pense que notre expérience opérationnelle permet de bonifier et d'améliorer les entreprises, peut-être plus que des gens qui n'ont pas notre expérience opérationnelle. En tout cas, c'est notre conviction. Et puis, le troisième sujet, c'est qu'effectivement, étant evergreen, donc n'ayant pas de contraintes de temps pour renvoyer l'argent aux bailleurs de fonds Limited Partners, on peut être flexible sur la durée d'investissement, mais également réinvestir de l'argent, 10, 15, 20 millions d'euros en année 4 ou 5, ce que les fonds classiques ne peuvent hélas pas faire, puisque leur période d'investissement, au bout de 5 ans, elle est clôturée. Donc, c'est ça nos différenciants. Et en plus, on est sympa.
Bien, tout à fait. Et tu viens de le démontrer donc, au travers de cet échange. À nouveau, un grand merci à toi, Renaud, de m'avoir accordé de ton temps, alors que je sais ô combien il est précieux, surtout... Que tu suis des dossiers en ce moment, donc qui sont, je l'espère, qui vont bientôt se réaliser pour toi. Si tu veux dire un petit mot pour ta famille, tes proches, je sais pas, même s'ils vont peut-être pas nous écouter, mais un petit mot pour dire que tu as peut-être pensé à eux.
je te remercie de m'avoir laissé cette opportunité de parler sur ce sujet de MBI. Qui me tient à cœur. Puis deux, je veux remercier mon épouse qui a la gentillesse de me laisser carte blanche dans mes projets entrepreneuriaux qui, de temps en temps, peuvent mobiliser de l'argent de la famille de façon importante. Et puis, de temps en temps, et assez souvent, mobilise mon temps de façon déraisonnable certaines semaines. Et donc, je la remercie pour sa patience et son soutien.
Merci beaucoup. Bon, on lui fera écouter que cet extrait, si tu veux. Je ne sais pas s'il y a dans le monde de la finance, mais...
Je n'ai pas fait ça pour ça.
Ah non, mais bien sûr, non, je sais très bien. Et tu ne m'as pas payé pour que je te pose la question. Donc, merci beaucoup, Renaud, et à très vite. Et je vous invite, donc, voilà, tous les dirigeants ou les parties prenantes à une opération de capital à contacter Renaud si vous avez des dossiers qui pourraient intéresser Zeta. Merci à nouveau, Renaud.
Merci beaucoup, Iliad. Merci à toi.